Mode d'emploi.
Bienvenue donc sur Mode d'emploi, format secret de fabrication. Donc tous les troisièmes vendredis du mois, le format secret de fabrication donne la parole aux salariés dans leurs entreprises, accompagnés de toutes sortes de personnes qui peuvent éclairer cette parole et donner des clés d'explication. Aujourd'hui, c'est un sujet un peu particulier parce que nous allons parler de l'accueil des migrants. Alors évidemment, c'est un sujet qui occupe... qui a occupé et qui occupe toujours, on va dire, les médias aujourd'hui, notamment par le biais des campagnes électorales que nous voyons se dérouler. Mais nous n'avons pas parlé des présidentielles, nous avons parlé de qu'est-ce que ça signifie d'accueillir des migrants quand on est salarié dans une structure d'accueil. Et on va parler des différentes structures d'accueil, on va parler de la situation donc des migrants. Alors, et notamment, enfin, et pas seulement de ce point de vue-là, parce que ça, on a déjà pu entendre ça ailleurs, on va donner la parole à des salariés et des observateurs du travail dans les centres d'accueil. Et donc cette optique-là, nous avons plusieurs invités. Nous allons d'ici quelques minutes recevoir Christophe au téléphone, donc qui va nous parler un peu de la situation qui a eu lieu à La Chapelle et des dispositifs qui ont été mis en place dans l'urgence et pourquoi ça n'a pas marché comme prévu. Et ensuite, nous allons donner la parole à Elsa, qui est là parmi nous dans le studio.
Bonjour.
Ah, bonjour Elsa. Qui donc a fait un travail de reportage sur justement les nouvelles structures et comment elle aussi, elle met sous pression migrants, salariés, tout le public. Puis nous entendrons Margot.
Bonjour.
Donc Margot qui va nous donner plusieurs éclairages, hein, puisqu'on verra qu'il y a plusieurs, elle a plusieurs angles d'approche sur cette question-là.
Hein. D'attaque.
D'attaque, ouais, plutôt, ouais.
De casquette.
C'est ça. Qui donc va nous donner un peu une vision un peu générale sur ce qui se passe là. Et ensuite, Ibtissam prendra la parole. Alors Ibtissam est en régie, là. Elle attend le coup de téléphone de Christophe et qui nous donnera un éclairage sur une situation très particulière qui se passe dans un de ces organismes d'accueil, très particulière, assez douloureuse et assez conflictuelle, on va dire. Voilà. Avec ça, on va essayer de brosser donc le tableau général. Alors, en attendant l'arrivée de Christophe en ligne, Elsa, j'aimerais que tu nous donnes un petit éclairage sur le développement de nouvelles structures. Pourquoi est-ce que il y a des structures comme ça qui apparaissent, qui sont mises en place dans l'urgence, et quelles sont ces différentes structures? Parce qu'on va utiliser quand même pas mal de sigles, hein, et faudrait peut-être qu'on les éclaire un peu. Donc, est-ce que tu peux nous...
Oui, bien sûr. Alors, je sais pas, je peux intervenir sur ce sur quoi j'ai travaillé.
Bien sûr.
À savoir, ce qui s'est passé après la vague de migration. Margot, interviendra sur la question sur est-ce que il y a vraiment une augmentation ou pas, du flux de migrants. Mm-hmm. Mais en tout cas, à la suite la création de campements à Calais et à Stalingrad, il y a plusieurs sortes de structures qui ont été mises en place. La première, celle sur laquelle moi j'ai travaillé et dont je vous parlerai plus profondément après, ce sont les centres d'accueil et d'orientation qui en gros ont été mis en place au début en octobre 2015. Mmh. Ce sont des dispositifs qui résultent d'un rapport qui a été écrit par monsieur Jean Haribaud et Jérôme Vignon, qui s'appelait le pas d'après, qui essayait d'anticiper sur ce qu'on pouvait mettre en place pour désengorger la jungle de Calais. Donc ce sont les premières choses qu'on a mises en place. Eux préconisaient la création de centres de répit à Calais. Ce qui s'est passé, c'est que l'État a repris cette proposition pour en mettre partout, sauf des centres de répit, sauf à Calais, à Paris et dans les Alpes-Maritimes, qui étaient les points nodaux de migration. Alors, Donc ça, ce sont les centres d'accueil et d'orientation.
Les CAO.
Les CAO. Mmh. Ce sont les premières structures. Il y a d'autres structures qui ont été mises en place parce qu'il y avait un grand nombre de personnes qui, en tout cas, disaient être mineures sur Calais. Et donc, on a créé ce qu'on appelle des CAOMI, C-A-O-M-I, comme mineurs isolés. Voilà, qui sont des structures qui, pour le coup, sont complètement... Les CAO sont déjà... hors la loi, si on peut dire, elles ne correspondent pas, les structures ne rentraient pas, n'étaient pas couvertes par les codes qui régissent les structures habituellement. Les CAOMI, c'est encore pire parce que normalement, selon, je crois, l'ordonnance de 45, la France est tenue d'accueillir les mineurs et de les accueillir de la même manière qu'ils soient français ou étrangers.
En fait, donc ça. Juste si je peux me permettre, effectivement, les dispositifs qui sont en train d'être construits autour de la question des mineurs remettent en cause foncièrement le CNR, le programme du CNR, la politique d'accueil et de protection des enfants qui a été mis en place après la Seconde Guerre mondiale, puisque en fait. Normalement, là, l'État doit protéger les mineurs. Donc, on a commencé par nous parler de mineurs isolés étrangers, les MIE. Donc, en créant une espèce de sous-catégorie, un mineur, qu'il soit français ou non, devait être protégé différemment. Et maintenant, on vient nous parler de MNA, qui sont les mineurs non accompagnés, qui serait encore une sous-catégorie. Or, l'ordonnance 45 prévoit la protection des mineurs en général. Et on voit bien que parce que migrants, il y a un traitement spécifique et en dehors du cadre commun. Mmh. Et donc là, il y a une vraie difficulté.
Voilà, ouais. Mmh. Donc les CAOMI, donc on a les CAO, les CAOMI, et la troisième structure qui a été créée, il y en a une quatrième dont je vous parlerai après, mais la troisième structure, ce sont les CHUM, les centres d'hébergement d'urgence pour les migrants, qui ont été créés en Île-de-France plus particulièrement, où il n'y a pas de CAO, et qui sont, de la même manière, ils contreviennent au régime commun, parce que les centres d'hébergement d'urgence doivent normalement accueillir, alors Margot, pareil, doivent accueillir sans condition, si ce n'est celle de la détresse. Et une deuxième condition, je crois. Non,
non, mais en fait, non, il y a la détresse. En fait, l'accueil en France, il est prévu par... Il est prévu par l'accueil en service social, il est prévu par le code de l'action sociale. Mmh. Et donc le code de l'action sociale prévoit que l'accueil est inconditionnel et donc il n'y a pas de question à se poser, il n'y a pas de règle à part l'accueil inconditionnel. Et donc on doit accueillir tout le monde en situation de détresse et surtout si la situation n'évolue pas, on n'a pas le droit de les remettre à la rue. C'est pas je t'accueille. La loi, elle dit pas je t'accueille pour une nuit et le lendemain matin tu repars et si je peux t'accueillir de nouveau ou si je peux t'accueillir. C'est la loi, elle dit je suis en situation de détresse, je dois être accueilli jusqu'à ce qu'une orientation adaptée à ma situation me soit proposée. Bon, ça, on sait bien que ça n'est pas respecté dans le droit commun, mais encore moins sur la question des migrants.
Et donc la quatrième structure, elle est en train d'être mise en place, ce sont les PRADA, P-R-A-H-D-A, alors je sais plus ce que ça veut dire exactement, mais c'est programme d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, qui en gros sont dans la continuité des CAO. Aujourd'hui il y a 10 000 places de CAO. Donc les demandeurs d'asile arrivent, notamment dans la bulle dont va nous parler Christophe. Ils vont ensuite en CAO. Ils doivent normalement rester le plus brièvement possible dans ces CAO. Ils doivent y faire leur demande d'asile, sans quoi ils doivent partir au bout d'un mois.
D'accord.
Et une fois qu'ils ont fait leur demande d'asile, ils doivent être redirigés, donc soit vers des CADA, soit vers donc ces nouvelles places. CADA, centre d'accueil des demandeurs d'asile. D'accord. C'est en gros le truc traditionnel.
C'est ça.
Voilà.
C'est la structure.
CADA, c'est la structure traditionnelle.
Qui est débordée en ce moment.
Alors.
Et pour laquelle,
Qui est débordée depuis une vingtaine d'années. D'accord. Parce que l'État a fait le choix de désarmer ces structures.
Mmh. Et alors, la logique. Et donc, ces PRADA, je veux juste rajouter, on va d'abord parler de la logique. Mmh. Ce qui explique les gens qui s'occupent, les professionnels, par exemple, de la FNARS ou du GISTI, c'est que, il y a une une sous-dotation structurelle de ces structures, si je puis dire, et qu'à chaque fois que, enfin, au début, les CADA étaient débordés. Comme les CADA étaient débordés, les CADA, ils sont régis par le Code d'action sociale des familles, et donc il y a un certain nombre, un certain encadrement, une certaine dotation des CADA. Quand ceux-ci ont été saturés, on a créé de nouvelles structures, les HUDA, H-U-D-A, et je crois que c'est hébergement d'urgence des demandeurs d'asile. Quand ceux-ci ont été saturés, on a créé les ATSA. Et quand ceux-ci ont été saturés, là, durant la dernière vague, voilà, on a créé les CAO et les puis CAOMI, les PRADA. Et les PRADA ont ce site particulier qu'ils sont régis par des appels d'offres. Et du coup, dans ces appels d'offres, il y a quelque chose de tout à fait particulier. Dans ces appels d'offres, ils sont donc publics, c'est des marchés. Et il y a deux choses qu'on demande aux associations qui candidatent à ces appels d'offres. C'est d'une part de veiller au suivi de ce qu'on appelle les dublinés. Les dublinés, c'est des gens qu'on va transférer dans les premiers pays par lesquels ils sont passés pour entrer en Europe.
Convention de Dublin.
Voilà, c'est le règlement de Dublin 3. Qui dit que les réfugiés dans le premier pays où ils passent, ils doivent être enregistrés, on enregistre leurs empreintes. Ensuite, ils font ce qu'ils veulent en gros, mais aujourd'hui des gens qui ont donné leurs empreintes en entrant en Italie, qui sont aujourd'hui en France, quand ils arrivent en France et s'ils veulent entrer dans les CAO, ils doivent aller donner leurs empreintes. Là, on regarde s'ils sont déjà passés par ailleurs avant ou pas, et si on se rend compte qu'ils ont donné leurs empreintes, ils sont dublinés, donc ils doivent être renvoyés dans dans le premier pays.
En Italie, dans l'exemple, en
Hongrie. Et donc dans les PRADA, il est dit clairement que les associations qui se portent volontaires pour gérer ces marchés doivent veiller au suivi des transferts, donc des expulsions. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, les associations s'engagent, si les médias leur demandent d'intervenir, à passer par le ministère de l'Intérieur pour répondre aux sollicitations des médias.
Donc, on va dire que c'est la dernière étape de toutes les associations qui gèrent, puisqu'elles sont, elles laissent leurs empreintes à l'entrée du ministère de l'Intérieur, quoi. C'est ça, grosso modo.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a un fourvoiement total des associations de travail social qui, en fait, agissent comme le gant de velours de la main de fer de la police, puisque pour avoir un hébergement, pour pouvoir vivre dignement, et on verra avec Ipsissam et avec Christophe ce que c'est que les conditions de vie qu'on propose aux migrants, on leur demande de déposer leurs empreintes. Et donc, en fait, les associations sont un supplétif de la police et font une partie du travail de la police. Donc, on voit bien que la nature même du travail social est remise en cause par cette logique de financiarisation, mais aussi d'étatisation et donc d'intégration dans les structures sociales des missions de police.
Ok, je vous interromps, je veux juste vérifier auprès de la régie. Est-ce que Christophe a appelé? Oui, on va prendre Christophe parce je sais qu'il a pas beaucoup de temps. Il est en ligne.
Oui.
Ah bah voilà, salut Christophe, comment vas-tu?
Bonsoir à tous.
Bonsoir. Alors, donc là, on a développé un peu justement pour exposer un peu la situation, parce que c'est vrai que c'est un feuilleté de structures qui ensuite relaient vers des associations, parfois avec des marchés, parfois sans, si j'ai bien compris. Donc on a vraiment un millefeuille, on va dire administratif, avec des structures qui se multiplient, qui viennent se pallier les unes les autres et se prolonger les unes les autres. Ça marche pas très bien, apparemment. Hein. Et toi, tu voulais nous parler de ce qui s'est passé à La Chapelle quand il a fallu effectivement accueillir, en tout cas grosso modo, accueillir, orienter, partiellement, si j'ai bien compris, héberger les migrants qui s'étaient regroupés à La Chapelle. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la séquence chronologique qui a amené un peu au point où on en est?
Je vais essayer d'être concis. Bon, moi, je suis Christophe Barato, je suis élu délégué du personnel et j'ai un mandat de délégué syndical Sud, santé sociaux, section syndicale et maille solidarité, et je suis salarié depuis 20 ans. Il y a une quinzaine de jours, nous avons fait un communiqué avec les salariés sous la forme d'une lettre ouverte au président et au CA concernant l'accueil des migrants, où nous avons deux dispositifs. Nous avons un dispositif, je dirais, classique CHU Migrants qui s'est développé durant ces deux années, plus exactement durant ces derniers mois. Donc on accueille dans le 18e, le 19e, dans le 91 aussi. Et puis ce nouveau dispositif, la chapelle, et puis celui d'Ivry là qui vient d'ouvrir il n'y a pas tellement longtemps, qui est consacré à l'accueil des familles. Donc qui s'est ouvert la chapelle, je crois, au début novembre. On a pris notre temps entre guillemets pour analyser ce qu'allait se passer. On a enquêté sur place. On a écouté ce qu'on nous disait et donc et puis il nous a fallu un petit peu de temps pour décider ensemble d'une position commune. Et cette position, elle est, je crois, j'espère, définitive. C'est-à-dire, sur les CHU migrants, actuellement, nous demandons des moyens adaptés. C'est-à-dire, c'est pas les moyens pour les moyens, c'est des moyens qui sont réellement adaptés à ce qu'on veut y faire, au projet. Hein, parce que même si on est sur des CHU, il doit exister des projets de service. Et quant à la chapelle, là, on demande tout simplement un désengagement de l'association, car pour nous, ce dispositif hybride, qui est présenté comme un dispositif d'accueil, d'hébergement, d'orientation, est un dispositif de tri, d'identification, qui peut avoir sa validité, c'est un débat, mais dans lequel Emmaüs n'a pas sa place.
D'accord.
Et pour plusieurs raisons. Voilà, en gros. Moyens supplémentaires sur CH Migrants, dénonciation
mais
et
alors,
demande de désengagement.
Vous voulez vous désengager. Pourquoi vous voulez vous désengager de ce qui se passe
Parce que il y avait deux options. Soit, effectivement, demander plus de moyens, mais le verre est dans le fruit. C'est-à-dire que c'est pas des moyens supplémentaires, c'est pas qui vont améliorer ou qui vont changer la nature de ce dispositif.
Un dispositif de tri, donc.
Contraire au projet social et aux valeurs de l'association. Donc, il faut être militant. Et militant, parfois, c'est dire non et de se retirer. Donc, et puis nous. Il est évident. Il y a trois choses, en fait. Hein, je développe un tout petit peu rapidement. Mmh. Il y a les accueillis, les personnes accueillies. Là, on s'est servi effectivement des articles du GISTIL, de la CIMAD, mais on aurait pu avoir d'autres apports qui sont très bien documentés et puis qui n'ont pas été contredits. C'est des aspects juridiques que moi je ne maîtrise pas, mais qui nous ont permis d'ouvrir les yeux. Il y a aussi les salariés là-bas à la chapelle, donc c'est un salariat nouveau puisque il a été recruté environ une centaine de salariés, essentiellement CDD, en quelques semaines. Il y a déjà des demandes de congés anticipés pour ces CDD. Donc, quand vous demandez des congés anticipés, au bout de deux ou trois mois, c'est déjà un signe de pénibilité. Il faut savoir qu'il y a des dizaines de personnes qui arrivent, qui sortent, il y a un flux continuel. Donc, c'est très complexe au niveau de ce que j'appelle la mise en tension. Hein. Des problèmes de sécurité, mais qui ne sont pas tant
Margot qui est là voulait te poser une question.
Oui, bien sûr.
Christophe, on se connaît. Les personnes qui ont été embauchées, est-ce que tu peux dire quelles sont leurs qualifications? Est-ce que tu peux expliquer
ce matin, j'étais à l'hôtel de ville pour discuter avec des élus écologistes qui m'avaient contacté suite au TRAT, qui voulaient me rencontrer. Et il y avait parmi ces élus, enfin ces collaborateurs, une personne qui a travaillé dans l'humanitaire et qui me disait, de toute façon, vous savez, dans l'humanitaire, les personnes ne sont pas qualifiées. Alors là, on n'est pas avec des personnes qualifiées. Certaines ont un peu d'expérience. D'autre part, on a affaire à un salariat qui est parfois en précarité. D'ailleurs, l'employeur se vante de faire ce choix-là de recruter des personnes en difficulté. Donc, au lien de subordination du salariat, vous faites espérer à des personnes qu'ils pourront compter sur une aide de l'association pour trouver un appartement ou apprendre en langue française, je ne sais pas quoi. Donc, ça fait beaucoup. Et donc,
d'accord, ils sont sursubordonnés parce que
ils
sont recrutés du contrat précaire aussi parce qu'ils sont en CDD.
Oui, bien sûr.
Donc ils sont recrutés dans l'urgence et dans la précarité Pour gérer l'urgence de la précarité, en fait.
Juste,
oui, c'est un classique. Hein.
Christophe,
c'est l'histoire de l'association, peut-être d'autres associations aussi. C'est notre histoire aussi à Emmaüs. Ça peut avoir sa vertu. Simplement, quand vous êtes vous-même en difficulté, lorsque vous avez pu avoir un parcours de migrant, justement, vous pouvez vous retrouver en difficulté lorsque vous effectuez ce métier-là. Et il n'y a pas de transmission d'anciens à nouveaux, en plus, puisque vous avez essentiellement de nouveaux salariés.
Donc c'est difficile de construire collectivement là-dessus. Margot, je crois que vous voulez agir là-dessus.
Oui,
vous voulez
oui.
réagir sur ce que tu disais sur le parcours de recrutement, Margot.
Oui.
Oui, effectivement. En fait, clairement, on fait appel à des gens qui sont soit eux-mêmes des migrants et qui feraient office de traducteurs, alors que la traduction, c'est une fonction.
Les compétences recherchées.
C'est les compétences recherchées. Donc, ouais. En fait, ils viennent d'avoir leur papier et on leur dit, bon, eh bien, pour t'intégrer dans la société, tu vas travailler chez Emmaüs et tu vas être traducteur. On a des entretiens sociaux qui visent à orienter les personnes, puisque le but, c'est d'orienter les personnes, qui sont menées par des gens qui ne sont pas travailleurs sociaux. Et Christophe le dira mieux que moi, mais la direction s'est vantée de ne pas embaucher des travailleurs sociaux, car ça évite la lassitude des travailleurs sociaux, puisque les gens passeraient trop vite, donc les travailleurs sociaux se lasseraient de ce flux continu de personnes, et puis ils ont plus d'humanité car ils ne sont pas travailleurs sociaux. Or, on sait bien que pour supporter la violence sociale qui est induite par la situation, la formation est nécessaire.
Alors Margot, tu es une auteur stratosphérique. On n'en est pas du tout là à l'association Emmaüs. D'ailleurs, il y a une nouveauté, c'est-à-dire que là, on a communiqué avec les salariés, écrit au président qui nous a répondu d'ailleurs, mais on a des fois médiatisé aussi à l'extérieur pour avoir ce regard critique et être aidé, parce qu'on est dans un silence assourdissant, hein, et on n'est pas du tout à ce niveau de réflexion-là. On est plutôt dans une perspective compassionnelle qui est toujours la même, qui nous empêche de réfléchir. Hier, quand je rencontre je discute avec le DG, je le pique encore sur la chapelle, il me dit, écoutez, si on n'avait pas fait la chapelle, eh ben, il y avait 9000 migrants qui dormaient dehors.
Donc, et le résultat aujourd'hui, c'est qu'il y en a quand même qui dorment dehors, si j'ai bien compris.
Oui, ça a rien changé. Surtout, j'ai répondu, mais et alors? Dans le sens que ça ne suffit pas d'être dans une perspective où aller d'un discours aller vers le plus souffrant. On est une association avec une histoire, avec un minimum de professionnalisation, et on doit réfléchir qu'est-ce qu'on fait, avec qui, pourquoi. Et pas seulement, c'est parce que les gens, il y a des gens malheureux et qu'il faut aller les aider. Donc il y a un discours très une perception compassionnelle, je dirais presque sentimentale parfois, qui fait que le débat est interdit.
Oui, je suis assez d'accord.
Et l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc c'est facile de nous dire, mais vous voulez, si on n'avait pas fait la chapelle, cher ami, eh bien il y aurait les gens seraient dehors. Ben oui, mais et alors? Ben, je veux dire, est-ce que Emmaüs, dans cette configuration-là, avec ce choix-là?
Mais c'est ce à quoi moi aussi, durant l'enquête que j'ai réalisée sur ces questions, je me suis heurtée un peu à ces discours. C'est-à-dire qu'on propose, et c'est un peu, enfin, on propose des dispositifs qui sont sous-dotés, avec des taux d'encadrement qui sont plus bas, donc de moins bonne qualité.
C'est ça. De CADA en CAO, en CAOMI, en CHUM, etc., en PRADA, au fur et à mesure.
Je mettrai sur la même ligne hiérarchique.
D'accord.
Quoique les CAO, CAOMI et CHUM,
ouais.
On va dire, mais en effet, il y a les CADA, UDA, ATSA et en dessous,
d'accord,
encore les CAO. Et du coup, c'est un peu. Dès qu'on émet une critique ou qu'on moi je pousse hein, forcément dans leur retranchement les représentants des autorités, de l'OFI, de la DGCEF, la Direction des étrangers, et la chose qu'on entend immédiatement, c'est et alors quoi, il fallait les laisser dans la boue de Calais. Et en fait, on ne peut pas répondre à ça. C'est difficile de, bien sûr que c'est mieux que ces personnes soient dans des structures en dur. Bien sûr que c'est mieux.
Enfin, en dur, tu vas un peu vite parce que moi, si j'ai bien compris,
bungalows. Même un bungalow, c'est mieux que la boue, c'est mieux que la prostitution,
à la chapelle,
il
y a une bulle, c'est ça. On n'est pas dans du dur là.
Non, derrière, il y a quand même.
Moi, je vais être obligé de partir. Pardonnez-moi, j'ai un train à prendre. Je voulais dire une chose. sur la, même le lieu en lui-même, la chapelle, avant de partir. J'en ai parlé à Jérôme pour, avant de préparer l'émission. Déjà le contenant. On a confié à un artiste de la bobosphère, une espèce de on appelle ça une bulle, mais une bulle c'est transparente et léger. Là, on a un chapiteau. Un chapiteau, c'est opaque et lourd. Et vous avez des bungalows ouverts aux quatre vents. Et donc, aucun espace de travail n'a été prévu pour les salariés, hein, et qui se sont gelés cet hiver. Ça peut paraître anecdotique, mais il est difficile d'imaginer pouvoir bien accueillir déjà lorsqu'au soi-même on n'est pas accueilli dans le lieu où on travaille. Hein. Et donc, déjà, il y a une conception du contenant qui était...
qui n'avait rien à voir avec les objectifs. Enfin, c'est pas fonctionnel, c'est ça que tu es en train de dire, en fait. C'est absolument pas
oui,
fonctionnel.
Oui, parce qu'il y a ce côté peut-être un peu français de mêler le caritas avec le business, le show business. Il faut faire beau, il faut faire... C'est une communication aussi. Je ne l'ai pas saisi, on ne l'a pas saisi tout de suite, parce que effectivement, quand on nous en a présenté le projet, la fiancée était belle. Et c'était mieux que les gens dormant dehors. Et il y avait des documents très bien argumentés, genre de choses. Mais on a eu beaucoup... On n'avait pas de réponse sur le parcours du migrant, c'est-à-dire... Un migrant qui arrive, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Et puis, on a ouvert les yeux progressivement avec les témoignages. On pourrait parler aussi du management qui est très contestable là-bas. Voilà.
On va en parler, ouais.
Je dois vous quitter, je suis vraiment désolé.
Il n'y a pas de souci.
On a voulu continuer à échanger, peut-être qu'il y aura d'autres occasions.
Bien sûr. On te remercie, Christophe.
Tu nous as
pas mal éclairé sur le...
J'écouterai l'émission.
Bien sûr. C'est en podcast sur le site de Mode d'Emploi.
Au revoir, Margot.
Salut, Christophe.
Alors, ben voilà, déjà, premier état des lieux. On voit que face à l'urgence, les réactions urgentes sont pas forcément adaptées. C'est-à-dire que on met en place des structures ad hoc, des dispositifs qui vont s'accumuler les uns sur les autres. Et résultat net, c'est pas adapté. Y compris quand on répond à une situation de crise à la chapelle, on met en place des choses qui... sont pour moitié, si j'ai bien compris, de la communication et pour moitié d'une réponse fonctionnelle aux besoins. Et malheureusement, la moitié réponse fonctionnelle aux besoins, j'ai l'impression que c'est le parent pauvre des deux, quoi.
Parce c'est pas très fonctionnel pour le coup.
J'ai vu la photo. Ah ben j'ai vu la photo de la bulle. Hein. C'est super, c'est coloré, c'est magnifique, mais je me demande si les gens se pèlent à l'intérieur, à quoi ça sert, quoi. Effectivement, est-ce que c'est vraiment mieux? Et d'ailleurs, bon, nous allons voir que. Une partie, effectivement, de la logique, comme tu l'avais exposé, Elsa, et comme ça a été repris par Christophe, c'est une logique de tri. Dans l'immédiat, on va revenir un peu en arrière, on va parler du parcours des migrants à travers un petit morceau musical. Et voilà.
Je pense à toi, mon amour. Moi qui suis loin de nos terres. J'y vais pour toi, mon amour. Je pense à toi, mon amour. Cette pensée sera la dernière.
C'est parti. Non, mais c'est bon. Bien. Donc, nous avons vu ces réponses d'urgence et ces réponses souvent inadaptées. Margot, qui a un peu d'expérience dans ce travail par plusieurs aspects, hein, donc t'as plusieurs casquettes, Margot, hein, si je peux me permettre de détailler. Donc tu es à la fois militante aux côtés des migrants,
hein, oui,
d'accord. Tu as été salariée de la Fondation Abbé Pierre pendant plusieurs années.
C'est ça.
Et aujourd'hui, tu es permanente syndicale à Sud Santé Sociaux où tu organises aussi des salariés dans ce type de structure. Donc vas-y. Dis-nous.
Donc effectivement, on a vu avec Christophe que la réponse qui était donnée aux difficultés rencontrées par les migrants qui sont contraints à vivre à la rue était totalement inadaptée. Et donc on nous dit, comme dit Christophe, on nous a dit « et alors ?» Et en fait, « et alors, c'est la crise, donc on devrait accepter de mauvaises conditions d'accueil des migrants, de mauvaises conditions de travail pour les personnes ». Tout ça sous couvert d'un vernis communicationnel. Mmh. Or, aujourd'hui, pour nous, il s'agit d'aller un peu plus loin et d'analyser quels sont les ressorts qui traversent cette communication et de voir, aujourd'hui, on nous dit la crise des migrants. Donc, je reviendrai sur la notion de crise
des migrants, ouais.
Et de se disant, de vague. Mmh. Enfin, il y a vraiment tout un terme, tout un vocabulaire qui est employé pour parler des personnes migrantes que nous n'accepterions pas si on parlait de personnes blanches parlant notre langue. Voilà. Donc il y a un fond de politique raciste. Hein. Je veux dire, si la question migratoire est aujourd'hui traitée comme ça, si l'accueil se fait de cette manière, c'est aussi un relent raciste de notre pays et de notre État qui s'exprime au travers de ce traitement.
Et ça a une double conséquence, ça. C'est moins 10 ans pour les migrants
et moins 10 ans pour les salariés
qui travaillent auprès des migrants.
Mais je pense que avant de décomposer les ressorts communicationnels et qui ont conduit cette situation, peut-être qu'Elsa, tu pourrais nous dire quel est le bilan des CAO aujourd'hui, puisqu'on nous a dit on va régler le problème des campements parisiens et de la jungle de Calais en ouvrant ces centres d'accueil et d'orientation. Quelques mois après, où en est-on ?
Alors, ben justement, je crois que les CAO ont été un élément clé de la communication du gouvernement français dans l'accueil des migrants. Hein. C'est quand même la chose qu'ils ont mise en avant. On a vu dans tous les JT, dans tous les JT régionaux, des grandes vagues, la lumière qui a été faite sur les vagues de solidarité qui ont entraîné la création de ces CAO, qui sont réelles dans certains cas. Après, le bilan en gros, c'est quelque chose qui est réel, hein, le côté positif de ces CAO. Après, le problème, c'est qu'on n'a pas mis en lumière l'aspect bien plus sombre, en fait, de cette histoire. Donc, outre la situation ad hoc hein, de ces dispositifs, le problème, c'est que donc ces CAO, d'octobre 2015 à octobre 2016, ils ont été confiés la plupart du temps à des petites associations locales. Il faut savoir qu'il y a des associations hein, qui n'ont pas pris la responsabilité de gérer ce type de structure parce qu'elles n'étaient pas assez bien dotées. Et donc, il y a des associations, des petites associations qui ont géré ces CAO. Alors, je réemploie les mots de Philippe Vanesson qui a un blog qui s'appelle Passeur d'Hospitalité, qui a un blog extrêmement intéressant et bien documenté. Il dit, voilà, la plupart du temps, donc ces associations locales, ça a pu donner le meilleur parce que les gens se sont dépatouillés, comme le pire, parce que il y a une espèce de jeu entre les préfectures, les directions des associations qui gèrent les CAO et les travailleurs sociaux, qui sont chacun liés les uns aux autres, qui ont pu être aussi des espèces de cache-misère, enfin, ou avec en essayant de faire de la rétention d'informations, y compris en interdisant en fait aux bénévoles d'aider hein, les migrants. Et du coup, ça a pu donner.
Ils font appel aux bénévolat, mais ensuite ils interdisent aux bénévoles d'aider. Je comprends pas.
Mais en fait,
comment
ça dépend.
C'est quoi le mécanisme ?
Ça dépend où. Mm-hmm. En fait,
quand ça se produit, c'est quoi ?
En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand ces CAO ont été créés, ça a donné dans certaines communes lieu à des manifestations importantes de gens d'extrême droite qui disaient non aux migrants, on refuse les migrants. Contre ça, il y a des collectifs de solidarité qui se sont créés et qui ont décidé d'aller porter une aide aux CAO. Et il faut bien dire que. Et je pense que la plupart des travailleurs en CAO vous le diront, sans ces bénévoles, les CAO n'auraient pas pu fonctionner. Mmh. Et d'ailleurs, là où il n'y a pas eu de bénévoles, les CAO ont très mal fonctionné. Et donc, il y a plusieurs... il y a des exemples de CAO, de Kaomi, qui ont donné des choses un peu... comment dire ? Borderline, voire dramatique. Voilà.
On a un cas dont on parlera bientôt.
Sur quoi ?
Vas-y, continue.
Voilà. Et du coup, voilà. Donc ça, c'est le côté petites associations. Mm-hmm. Pendant l'été 2016, la situation devient complètement critique à Calais. Il y a de ce que disent les associations, en tout cas celles que moi j'ai interviewées, une situation qui est vraiment au bord de la crise totale. Enfin, et du coup, il y a 9000 personnes en gros dans la jungle de Calais. Et donc, les associations vont, enfin, le Cazeneuve décide qu'il va falloir expulser hein, la jungle. Et du coup, il appelle toutes les préfectures à créer 10 000 places en CAO. Ça a plusieurs conséquences. Ça veut dire que les mastodontes de l'hébergement de demandeurs d'asile, Adoma et Coalia, rentrent sur le marché massivement des CAO, ce qui a des conséquences paradoxales. D'une certaine manière, ça a des bons côtés parce qu'il y a plus de moyens et il y a une expérience de cette question. Le problème, c'est que l'expérience, elle est aussi celle de la gestion et du contrôle hein, des réfugiés. À Douma, c'est les anciens centres Sonacotra.
Oui.
Et du coup, qui vont appliquer, et on parlait des Prada tout à l'heure, c'est pas pour rien, le seul association qui s'est positionnée sur les 5350 places de Prada, c'est Adoma. Mmh. Et donc, qui a accepté de faire un suivi de l'expulsion des Dublinés. Voilà.
D'accord.
Et le deuxième truc que je voulais dire sur la question des bénévoles qui est un peu compliquée, les CAO, c'est donc quand même une reprise d'une revendication des associations d'une certaine manière. Et en gros, créer les CAO, le gouvernement a convaincu les associations de convaincre eux-mêmes les migrants d'aller en CAO en échange du fait qu'ils ne seraient pas dublinés.
D'accord.
Or, aujourd'hui,
c'est une promesse qu'ils ont tenue.
Alors, qu'ils ont tenue pour l'instant. Alors.
D'accord.
Que les Calaisiens, et seulement pour les Calaisiens. C'est-à-dire que pour Stalingrad, pour aujourd'hui Lyon, cette promesse n'a pas lieu d'être. Donc, il y aura des Dublinés. Par contre, pour Calais, il y a plusieurs, pour les réfugiés de Calais, il y a plusieurs situations. Je crois qu'il y a une situation où c'est un peu, où il y a un mec qui risque de se faire dubliner. Bref. Ouais. Mais.
Je n'ai toujours pas compris comment ça se fait qu'on tient à l'écart ou qu'on isole ou qu'on fait de la rétention d'informations vis-à-vis des bénévoles. Comment c'est quoi là, c'est...
Mais les bénévoles, ils ont le truc, c'est qu'ils sont libres. Donc d'une part, ils peuvent apporter une aide, ce qui est indispensable pour
d'accord,
les associations.
Okay, ça,
mais
d'accord.
De l'autre côté, ils peuvent sortir les informations.
Ah.
Ils peuvent se mobiliser quand il y a des gens qui sont expulsés.
Ils ne sont pas aussi contrôlables que les salariés.
Et du coup, par exemple, à Toulon, clairement, la préfecture ça c'est un exemple dont je voulais parler juste avant. La préfecture, durant une réunion entre l'association gestionnaire, les travailleurs sociaux et la préfecture, a dit, voilà, il va falloir dubliner 2-3 personnes. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire votre propre liste des gens que vous voudriez voir dubliner. Ils ont demandé ça aux travailleurs sociaux, qui ont refusé. Et le truc qu'ils avaient demandé avant, c'est que, enfin, la travailleuse sociale qui dirigeait ce CAO, il y a des bénévoles qui ont répondu à Varmatin et des migrants qui ont aussi répondu à la presse. Ils lui ont dit, il faut que vous viriez les bénévoles et il faut, enfin, si
d'accord.
vous voulez, vous pouvez virer les bénévoles. Il faut que vous empêchiez les migrants de répondre à la presse.
D'accord, ok. Donc il y a une logique de contrôle.
Clairement, les bénévoles, l'État et l'État les veut comme pouvant servir de la soupe chaude et distribuer des couvertures de temps en temps, mais surtout pas comme des êtres pensants et des êtres politiques qui pourraient, par exemple, s'opposer à une OQTF ou avoir une vision critique de l'accueil ou de la gestion politique de la question migratoire aujourd'hui en France.
Ouais.
Donc un bénévole qui sert de la soupe à des migrants, ok. Un bénévole qui peut se questionner sur les conditions d'accueil, dehors. Et aujourd'hui, c'est bien ça qui est à l'œuvre. Et c'est ça qui est à l'œuvre pour la question des bénévoles, mais également pour la question des salariés. Puisque on passe, les structures recrutent effectivement des personnes sous-qualifiées qui ne sont pas qui sont dans une notion de bienveillance à l'égard des migrants et de charité, mais qui ne sont pas des travailleurs sociaux, avec un projet, avec des objectifs, des gens qui savent analyser leurs pratiques et qui connaissent le droit et quelles sont les règles qui régissent l'accueil et qui acceptent donc de faire dans l'urgence, puisque comme Christophe nous l'a dit, le discours médiatique, mais le discours qui est aussi relayé par les institutions, c'est l'idée qu'on serait confronté à une vague de migration, à une force disruptive qui arriverait et qui emmènerait tout sur son chemin. Mais non, c'est pas du tout ça qui se passe. Aujourd'hui, en fait, on estime qu'il y a 1 million de personnes qui ont franchi les frontières de l'Union européenne.
Ça veut pas dire 1 million
en 2016.
Ça veut dire dans toute l'UE.
Dans toute l'Union européenne, on a 1 million de personnes. Alors la question, c'est est-ce que nous, 500 millions d'Européens, on est en capacité d'accueillir un million de personnes. On parle de personnes qui fuient des pays en guerre. On parle de personnes qui risquent leur vie en traversant la Méditerranée. Je voudrais juste rappeler qu'aujourd'hui, est sorti ce chiffre, il y a 1000 personnes qui sont mortes, noyées en Méditerranée depuis le mois de janvier. Il y a 5000 personnes l'année dernière en 2016. Il y a 3771 personnes qui sont mortes en 2015. Donc la réalité aujourd'hui, c'est que des gens sont prêts à mourir pour quitter leur pays et que quand ils arrivent en Europe, ils sont pourchassés, maltraités. Et juste, voilà, je sais que c'est peut-être des choses qu'on a déjà entendues, mais je pense que c'est important de le rappeler, surtout dans ce climat politique où on a l'impression que ces gens viennent profiter des bienfaits de la France et de l'Europe. Les bienfaits de l'Europe, c'est la Hongrie qui a autorisé les tirs à balles réelles par la police contre les migrants. Les bienfaits de l'Europe, c'est qu'aujourd'hui, autour de la structure Porte de la Chapelle, il y a 800 personnes qui dorment le long de l'autoroute. Quand je vous dis le long de l'autoroute, c'est il n'y a pas de barrière. Ils sont sur le terre-plein central de l'autoroute, Porte de la Chapelle. Donc on voit bien la violence sociale qui est infligée à ces personnes. Et cette violence sociale, ensuite, on nous demande de l'excuser en tant que travailleur social. Mmh. On nous dit « Et alors ?» Par le fait qu'on les laisse dormir au bord de l'autoroute, vous, vous trouvez que c'est moins bien de, vous trouvez que c'est bien l'autoroute ? Oui ou non ? Et donc on est forcément contraint de dire la boue, l'autoroute, non. Bon, et donc nous, on propose une tente. Et vous, travailleurs sociaux, enfin association du social, vous allez gérer la tente de manière totalement inique et en collaboration avec la police, parce que soit c'est la tente, soit c'est la boue. Et on ne laisse plus la place à un projet social de s'exprimer. D'ailleurs, on ne laisse plus, mais c'est une logique qui traverse l'ensemble du travail social, on ne laisse plus la place au travail social. C'est-à-dire qu'avant, en fait, il y avait des associations, des équipes qui repéraient une problématique et qui proposaient un projet pour répondre à cette problématique. Aujourd'hui, on en est totalement sorti. Comme l'a expliqué Elsa, les associations répondent à un appel d'offres. Donc avant, l'offre qui était faite pour réparer le tissu social, pour permettre un accueil digne, elle émergeait d'une structure de terrain qui diagnostiquait un besoin et qui proposait un projet. Désormais, c'est l'État qui demande aux structures de terrain de
d'exécuter.
Et donc, on a changé totalement de logique. Et juste, je voulais juste finir sur la logique et le para-étatisme des associations. C'est qu'on en arrive à ce que les associations suppléent l'État, comme je le disais, par la prise d'empreinte ou la prise d'empreinte. Ou alors, par exemple, on a demandé et on a assisté à une scène surréaliste, et je vous invite tous à aller la voir sur YouTube, où le directeur de France Terre d'Asile, donc France Terre d'Asile, qui est censé être une ONG qui permette l'accueil des migrants, dans la jungle de Calais, a fait lui-même le tri au faciès entre ceux qui étaient mineurs ou ceux qui n'étaient pas mineurs.
Ah, donc, c'est encore plus simple que
les tests osseux qui sont déjà dénoncés.
Ouais.
On a le directeur de France Terre d'Asile qui à Calais se permet de devant les caméras.
Il a un radar à mine, c'est tout. Oh là là.
Et on parle d'une ONG faire le tri. Et ensuite, ces personnages qui sont donc à la botte de l'État et de la police et qui collaborent avec eux. À Calais, on a demandé lors du démantèlement à des travailleurs sociaux de mettre des bracelets de couleur à des hommes qu'on a triés en fonction de là où ils allaient être orientés. Donc il faut quand même, c'est une logique de tri violente. Je veux pas rappeler les heures les plus sombres, mais
oui.
Il y a quand même quelque chose de cet ordre-là où on trie les gens au faciès. Non mais je suis désolée, je suis pas une adepte du point Godwin. J'ai été obligée de m'y résoudre à force de travailler sur cette question.
On manque de comparaison possible en fait au bout d'un moment.
C'est ça. Voilà. Donc on a vraiment cette logique qui explose totalement le travail social comme un travail de prestation de l'État et où on peut être sorti si on ne remplit pas le contrat et un travail de supplétif de la police.
La directrice de Toulon là disait je comprends pas pourquoi en fait ils utilisent des associations. Parce qu'on est des simples opérateurs. Mmh. Donc pourquoi ils ne le font pas eux-mêmes, la préfecture? Pourquoi ils n'emploient pas des gens pour gérer ces dublinés dans les CAO? Pourquoi ils n'envoient pas des gens des policiers surveiller des gens dans les CAO. Pourquoi c'est nous qui devons assumer
cette position ? Ça donne pas forcément des bons résultats, la coopération directe, enfin l'intervention directe de la police dans les centres d'accueil. Justement, d'ailleurs, je me tourne vers petit Sam qui a une autre histoire à nous raconter, hein, qui a une structure particulière. Donc, présente-toi et présente cette structure.
Alors bonsoir, je m'appelle petit Sam, je suis éducatrice spécialisée de formation. Ça fait à peu près 16 ans. Presque 17 que je travaille en tant qu'éducatrice spécialisée dans la protection de l'enfance. Et depuis moins d'un an, je me suis engagée dans la défense des salariés. Et plus particulièrement depuis que j'ai un mandat en décembre de l'année dernière. Et j'ai été amenée à visiter une structure qui accueille des mineurs isolés étrangers. Donc un SAMI, Service d'accueil des mineurs isolés étrangers, dans la Marne. J'y suis allée et j'étais assez choquée des conditions d'accueil des jeunes. Par rapport à la vision classique que j'avais de mes 16 ans d'expérience sur l'accueil de la protection en danger, où il y avait 4 éducateurs, 73 jeunes, pas de personnel la nuit à partir de 18h. Ces jeunes-là partageaient le bâtiment avec d'autres personnes majeures en grande précarité et avec des problèmes d'addiction ou qui sortaient de problèmes d'addiction. Avec une intervention de temps en temps de la police des frontières pour venir mettre en garde à vue les jeunes.
Dans le SAMI.
Dans le SAMI, voilà. Donc quand j'ai constaté ça en fin de l'année dernière, j'ai interpellé mon délégué syndical. Et comme ça faisait un an que ça fonctionnait de cette manière-là, on a décidé de voir ça à la rentrée et d'en discuter entre nous, parce qu'on venait d'être nouvellement élus. Et bah, malheureusement, quand on s'est rencontrés le 8 janvier au matin, donc on en discute, je fais constater un certain nombre de choses, hein, donc je vous passerai les détails. On décide de provoquer un CHCST extraordinaire. Et avant même de remettre le courrier, dans l'après-midi, j'apprends la défenestration d'un jeune mineur isolé qui aurait eu 17 ans au mois de mars, Denko Sissoko, qui s'est jeté du 8e étage. Alors, ça s'est très vite enchaîné. J'ai, par voie de presse et radiophonique, dénoncé les conditions d'accueil des mineurs isolés étrangers sur ce service, en particulier de manière générale aussi, parce que je savais très bien que ça faisait débat dans la France. Et plutôt que de prendre cela comme de la critique, l'employeur a engagé une procédure de licenciement contre moi pour dénigrement de l'entreprise et critique du conseil départemental. J'ai été mise à pied pendant 2 mois avec une retenue de salaire. L'inspection du travail a refusé le licenciement, bien heureusement. Mais cette expérience, en fait, m'a ouvert les yeux sur une arrière-boutique que j'étais loin d'imaginer. Dans la mesure où on a dit tout le long de l'histoire, que tout le long de l'émission, que les mineurs bénéficient de la protection de l'enfance, quelles que soient leurs origines. Ce sont des textes de loi.
Ordonnance de 45
et article 75 du Code civil plus particulièrement. Depuis la circulaire Taubira et l'application qu'en ont fait les collectivités, on a des principes dérogatoires sur la prise en charge de ces mineurs-là. On commence à avoir une protection de l'enfance à deux vitesses. Voilà. Vous avez clairement une protection de l'enfance pour les enfants français et vous avez une protection de l'enfance pour les mineurs migrants. Il y a de la discrimination dans la prise en charge. J'ai de la discrimination dans la prise en charge financière, dans ce qui est proposé. Je dirais même pire, pour avoir discuté avec pas mal de travailleurs sociaux suite à ce qui m'est arrivé, à une volonté de brimer la parole des travailleurs sociaux, de les faire taire, des directives qui sont parfois illégales, interdire les jeunes par rapport à leurs droits, d'être les mettre en lien avec des avocats.
Interdit un contact avec.
Voilà, on interdit aux travailleurs sociaux de mettre en lien ces jeunes-là avec des avocats ou faire valoir leurs droits. Plus ils restent dans l'obscurité de leurs droits, mieux c'est pour ça. Et en fait, ce sont des machines à broyer que des départements ont mis en place, qui sont des volontés politiques où on veut prouver absolument qu'un mineur est majeur à tout point. On a 80% en France de rejet, de classement sans suite. On reconnaît qu'un mineur est majeur et qu'on remet en cause sa minorité. Alors que en Suède, par exemple, quand ce sont des dispositifs beaucoup plus clairs, on est à 40%. Voilà. Vous avez des mineurs qui, une fois qu'on les a reconnus majeurs, sortent du dispositif. Le 115 vous dit, t'as des papiers qui disent que t'es majeur, je peux pas te prendre en charge. Mais je suis considérée par le département. Donc, c'est une espèce d'entre-deux. des départements, moi je situerai ça au mois de septembre l'année dernière en discutant avec certains salariés de départements différents, mettre le paquet en prenant des avocats qui ne font que ça, c'est-à-dire qui vont une fois que le mineur fait un appel sur une fois qu'il fait appel de sa décision par rapport à cette minorité, des avocats ne sont payés que pour ça, pour aller en cour d'appel et prouver absolument qu'ils sont majeurs. Et ils mettent de l'argent là-dessus. Ce qui m'a aussi désolée, c'est de voir que quand les mineurs sont mis à la porte, ceux qui prennent le relais sont des associations. Donc ERSF, ce sont des citoyens qui vont faire le travail que devraient faire normalement les éducateurs spécialisés ou qui est de la responsabilité de l'État et des départements. Et on fait peser sur les citoyens la prise en charge de ces jeunes-là qui mènent un combat. Alors, leur combat, il est vraiment parfois parsemé de cours d'appel, de refus de scolarité. Par les départements sur la structure de la Marne, par exemple, vous avez des jeunes qui peuvent rester des mois sans être scolarisés.
Oui, effectivement, on fait peser sur des citoyens et des militants la responsabilité de donner accès à leurs droits à un certain nombre de personnes, mais on ne fait pas peser que cette responsabilité sur ces personnes-là. On les poursuit. C'est-à-dire que aujourd'hui, le délit de solidarité a été réintroduit en France. Donc parce que des mineurs isolés, des mineurs étrangers, migrants qui viennent d'arriver, ne sont pas hébergés, certaines personnes prennent la responsabilité de les héberger, ces gens-là sont poursuivis.
Alors si je résume...
C'est le cas de Cédric Herrou.
Oui.
Ou alors parce que l'État envoie la police chasser des gens qui dorment sur les trottoirs à Stalingrad, eh bien, des personnes s'opposent. C'est le cas de Oussam El Hassimi, qui passera en procès le 5 mai à Paris. C'est un peu notre Cédric Herrou parisien, faudrait pas l'oublier, pour s'être opposé à une rafle. Voilà. Donc en fait, les
Cédric
citoyens,
c'est dans les Alpes-Maritimes, c'est ça.
Voilà.
Je rappelle la situation de Cédric Herrou. Donc c'est un paysan dans les Alpes-Maritimes dont le terrain est juste contigu de la frontière et qui donc avait des migrants qui se retrouvaient chez lui après avoir passé la frontière.
Et
c'est ça.
Il y a une autre jeune fille qui s'appelle Francesca qui est passée en procès là le 4 avril dernier.
Voilà. Donc effectivement, alors on a une triple contradiction. D'abord, on ne donne pas les moyens. On ne débloque pas des moyens qui permettent de faire travailler dans des bonnes conditions des travailleurs sociaux. Donc on les laisse tomber au milieu du guet, c'est-à-dire qu'on leur donne des tâches impossibles, si j'ai bien suivi. On veut bien des bénévoles, mais s'ils entendent rien, s'ils parlent pas, s'ils voient pas ce qui se passe, et qu'ils jouent les petites mains, donc des mains sans tête, c'est ça, si j'ai bien compris.
C'est ça.
Et quand les gens, en tant que bénévoles, ou en tant que citoyens, ou en tant que militants, décident de prendre les choses en main parce que c'est pas possible, on les poursuit. D'accord,
on les perçut ou bien on les éjecte.
On les éjecte.
Et ce qu'il faut savoir aussi, ce qui est difficile pour les salariés, c'est que à la mainmise, la prise en charge des mineurs isolés étrangers, c'est de la responsabilité du département. Mmh. On sait que le département finance toutes les associations.
Oui.
Voilà. Okay. Donc il suffit que vous parliez et que vous opposiez, vous êtes stigmatisé et vous savez que vous êtes grillé dans tout le département pour un emploi.
C'est ça.
Voilà, c'est extrêmement. Enfin, on est face à une espèce de machine où préfecture, département, dirigeants associatifs sont tous les trois mêlés à tout ça. Et quand vous êtes seul, vous êtes seul. Donc, à part le combat syndical en interne, je vois pas ce qui est possible.
Et toi, la seule raison pour laquelle ils ont pas réussi à durer, c'est donc justement le mandat et la protection de l'inspection
du travail.
Le mandat,
l'inspection du travail, qui effectivement a fait une enquête de fond et a bien vu que je parlais en tant que mon mandat. Après, moi, ce que je déplore, c'est le dévoiement des travailleurs sociaux. Nous, notre métier, c'est pas ça, et absolument pas ça. On a comme ça, il y a une espèce comme ça de, je sais pas comment je pourrais expliquer, mais les militants ont fini, voilà, de glissement. Les militants ont fini par faire notre travail, et nous, éducateurs spécialisés, on a fini par devenir, des fonctionnaires, mais sans les avantages et avec moins de protection.
Et justement, il y a un sociologue extrêmement intéressant qui s'appelle Mathieu Ely, qui travaille sur la question, qui explique que la question, le monde associatif, c'est en fait la quatrième fonction publique, en gros la variable d'ajustement sur laquelle s'appuie l'État. Et qui ne fonctionnarisent pas en fait ces gens qui travaillent dans les associations, parce que ça permet de faire des CDD et d'avoir une variable plus souple en fait. Hein. On peut virer bien plus facilement ces gens-là. Et du coup voilà, enfin c'est vraiment une il a cette théorie sur cette question.
J'ai découvert.
de récemment la cinquième roue du carrosse, car il y a une cinquième roue du carrosse, il y a toujours une roue de carrosse en plus, vous savez. En plus de ça, il y a maintenant les merveilleux services civiques qui sont payés au lance-pierre pour faire tout le taf dont ni les fonctionnaires ni les associatifs ne veulent. Voilà.
Alors, les services civiques, par exemple, sur la question des migrants, ils vont gérer la file d'attente devant la superbe bulle du centre de la chapelle.
Ben voilà.
Voilà, par exemple, c'est
la
une démission des services civiques.
On fera une émission spéciale sur les services civiques parce que c'est une forme de précariat qui en ce moment est en train d'être généralisée à plein tubes, donc on reviendra là-dessus.
Pour les jeunes, c'est le CPE en pire.
Ah oui, c'est ça, c'est le CPE en pire, et cette fois-ci, il n'y a pas eu des milliers de gens dans les rues parce que, vous comprenez, c'est civique, et logique. Donc,
bientôt, ça sera le service militaire.
Et c'est Martin Hirsch, l'ancien responsable associatif, qui a inventé ce
concept. Et oui. Donc voilà, donc on voit bien qu'il y a...
Un pourvoyeur de l'hôpital public.
Et tout ça, non mais toutes ces régressions, non mais le problème c'est que vraiment, toutes ces régressions, moi je voudrais conclure en disant ça, il faut pas se laisser piéger parce que toutes ces régressions qui sont des régressions, ce sont des régressions pour le travail social, ce sont des régressions pour la conscience des citoyens et l'implication possible des citoyens, c'est des régressions à tous les niveaux, on nous les fait accepter à cause de l'urgence, à cause des questions d'obligation de charité, donc on est obligé de, on est bien sûr, on est obligé, il y a une obligation de solidarité qui est éthique, qui est un principe, mais le problème c'est que pour remplir cette obligation-là, on descend les exigences et on devient de moins en moins, comment dire,
en prétendant que l'État est ruiné.
Voilà. Il n'y a pas une obligation de charité, hein,
de solidarité.
Il y a un choix de société qu'on a à faire.
Oui.
Et aujourd'hui, par exemple, l'argent qui a été mis dans le CICE aurait pu être mis dans un accueil digne des migrants. Donc c'est vraiment une question politique et un choix de société.
Voilà. Donc on a malheureusement pas tout dit, mais on a quand même fait le tour. Et donc derrière la crise entre guillemets, puisqu'on a vu que c'était pas vraiment une crise, enfin en tout cas c'était gonflé à l'échelle de crise par les médias, derrière cette crise il y a des salariés, il y a des personnes en souffrance, il y a les migrants qui sont mal accueillis et en dessous des normes qu'on devrait s'imposer, et parfois il y a des drames comme à la sauvegarde dans la Marne. Je vous remercie d'être venu, hein. Bon, je remercie encore Christophe qui veut plus nous entendre.
Merci de nous avoir invités.
C'est un plaisir. On en refera une, vous inquiétez pas. Voilà.